Allô?
Allô, Malika?
Bonjour, Thibaut.
Devine d'où je t'appelle.
Non, par le studio.
Si.
Ah, là, je suis contente. Justement, je me demandais hier, j'étais à l'atelier Initiation à l'art, et je suis passée devant le studio, j'ai dit, ah, j'espère que Thibaut va reprendre le studio bientôt. Ah ben voilà, tu y es, et tout seul.
Eh bien écoute, pour l'instant, l'espace du studio ne nous permet pas d'être à plus de deux personnes, donc je n'ai encore invité personne pour pas faire de jaloux, mais je pense que Monsieur Patrick passera quand même le bout de son nez.
Ah oui, bon.
Et j'ai peut-être une invitée qui va venir parler d'un projet qu'elle a pour le quartier.
Ah d'accord, ok, super, ben tout doucement, hein.
Mais oui,
ben,
tu vois.
Voilà, ben hier nous on a fait la peinture, on a donc peint... à l'extérieur, à la terrasse hein, du CCM.
Ah oui?
Oh oui, c'était magnifique. Vraiment, parasol, chacune a une petite table. Vraiment, donc...
Donc l'atelier d'initiation à l'art a donc bien repris aussi dans le quartier, quoi.
Oui, tout à fait. Et dans la terrasse, comme il fait très beau, donc c'était super.
Eh ben, c'est que des bonnes nouvelles, tout ça.
C'est pas une nouvelle.
Est-ce que ce confinement ou ce déconfinement t'a inspiré une création quand tu t'es mis à peindre dans cet atelier?
Oui, moi je peins maintenant, tu vois, un peu de l'abstrait, entre parenthèses. Hein. Et pour l'instant, je mets plein de couleurs. Pas plus que trois couleurs, mais bon, voilà. Donc, ce que mon instinct me dit de peindre et tout ça, mais c'est toujours dans l'évasion, dans le ciel bleu, dans la mer bleue. Voilà, c'est, en ce moment, c'est ça.
Eh bien. Bon, on va réfléchir hein, tous ensemble à comment on va réussir à refaire nos émissions en studio ou dans le CCM. Là, on avait évoqué la semaine passée peut-être déplacer le studio dans un endroit plus grand.
Hein, plus grand, oui.
Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir tous revenir et animer cette émission, parce que moi, j'en ai marre. Hein. Moi, j'en ai marre de d'être un petit peu là, le aux commandes, un peu seul, quoi.
Mais oui, mais tu vas voir, ça se passe très bien. Moi, hier, j'étais contente de revoir un peu toute l'équipe, voilà, du CCM et tout ça, les collègues. Ah ben, on a vraiment, voilà, il y a une distanciation hein, de distance, et voilà, ça se passe très très bien, quoi. C'est, franchement. Et puis l'espace, c'est pas que ça qui manque au CCM. Donc il y a moyen de passer un très bon moment avec nous et les auditeurs. Voilà, comme avant.
Parfait.
Voilà.
Excellent, super. Ah ben écoute, puisque c'est un peu le déconfinement et qu'on peut retourner au musée, moi je vais proposer d'entamer cette émission en écoutant cette archive que nous avions, l'archive de la balade qu'on avait fait au musée de Molenbeek. Oui. Le mot muse, tu te souviens?
Ah oui, le mot muse, ah, oui, bien sûr. Voilà. Ah oui.
On est allé là, donc on va écouter l'extrait de cette balade que nous avions fait avec le Landau Radio. Ça va?
Super, ah ben écoutons.
Allez, je lance le générique.
Et je suis en train de t'écouter aussi. Hein,
ah ben voilà.
Voilà.
C'est cool.
Allez, bonne continuation Thibaut, et jeudi prochain sûrement au studio.
Ouais. Super, bah ouais, sûrement. Merci beaucoup ouais. Malika, à très bientôt. Ciao, ciao.
Vous écoutez Radio Maritime.
Bienvenue sur la 105.4.
Radio Maritime, émission spéciale coronavirus.
C'est Radio Panique.
Allô?
Salut.
Coucou.
Allô?
À l'heure du confinement, Radio Maritime vous détend.
Vous allez me faire parler pour m'enregistrer.
Oui.
Bonjour Radio Maritime.
Radio Maritime.
C'est parti.
Le coronavirus, c'est nul et c'est bien parce qu'on n'est pas à l'école.
Voilà, c'est le stagiaire, vous me connaissez déjà.
Anthony qui est avec nous depuis trois émissions. Vas-y, c'est à toi.
C'est ça, donc on va voir, je vais présenter monsieur ici. Donc, quelle est votre fonction ici?
Eh bien, j'ai la fonction de conservateur.
Donc du musée de Molenbeek, c'est ça?
Du musée de Molenbeek, exactement, qui est un peu mon bébé. Ah,
vous en prenez soin, parce que ce que je vois, c'est que vraiment, vous en prenez vraiment bien soin, et c'est vraiment agréable d'être ici. Et ce musée existe depuis combien de temps?
Bah, il a été ouvert en décembre 2017, donc ça fait un peu moins de 2 ans maintenant.
Et ça a pris beaucoup de temps de tout archiver, tout ce qu'on voit ici?
C'est-à-dire que pour trouver ce que nous montrons, il a fallu plus de 10 ans. Dans l'ensemble, et donc tout le processus entre la décision de créer le musée et l'ouverture du musée, il y a 13 années qui se sont passées, donc c'est quand même une longue période. Enfin, nous sommes heureux et fiers que ça a pu voir le jour, et nous avons souvent des visiteurs qui nous disent tout le bien qu'ils pensent du lieu.
Je peux vous poser une question. Quel est l'objet ici, ou la chose la plus insolite qui vous tient, enfin la chose qui vous tient vraiment à cœur ici dans ce musée?
Mais disons qu'il y a deux réponses. Bon, la première est très facile. Enfin, disons, moi j'aime tout. Mmh. Et chaque objet, chaque image qui figure, voilà, est lié chez moi à... au souvenir, disons, du contact avec un tel, une telle, qui me l'a donné ou prêté pour pouvoir la montrer. Donc, voilà, c'est une multitude d'histoires. Donc, après, un millier, ça fait presque un millier, une histoire hein, à raconter. D'un autre côté, voilà, s'il faut trouver un objet que j'aime particulièrement, ben, il y a une fantastique maquette que la société d'Alès Le Lion nous a prêtée. C'est une voiture à l'ancienne, donc tirée par une vache, par un bœuf plutôt, je pense. Et voilà, qui fait toujours voilà, que les visiteurs sont étonnés d'avoir de la voir. Voilà, cet objet qui se trouvait à la place des camions. Avant nos camions, ben, on avait des voitures tirées par des chevaux ou ici par une vache.
Eh ben, ça attise ma curiosité de voir cette voiture.
Mais oui, mais allons-y. Hein.
Allons-y.
On va là-bas. Allez, c'est parti, on bouge. On avance dans ce musée de Molenbeek. C'est parti. Je fais avancer le landau. C'est pas simple, hein, Midi, le landau.
Tu veux que je le passe?
Allez, vas-y.
On se trouve dans quel espace, alors?
Alors, ça, c'est le 4e espace qui est consacré à la vie économique, au travail, au métier de Molenbeek au 19e siècle et jusque dans les années 1970, lorsque le grand déclin industriel a démarré. Et ici, c'est cette maquette, qui est vraiment une pièce unique, magnifique, donc illustre comment, avant les voitures, avant les camions, on transportait des marchandises. Ici, en l'occurrence, donc une grande société molenbeekoise, Delhaize-le-Lyon, qui a d'ailleurs son quartier général en ce moment encore à Molenbeek, mais qui va, dans les prochains mois, quitter Molenbeek pour la périphérie bruxelloise. Et c'est toujours amusant pour moi, quand j'évoque dans les visites guidées cet objet, de poser la question, mais pourquoi est-ce un bœuf ou une vache?
Oui.
À vérifier.
Oui.
Et non pas un cheval, parce qu'on s'attendrait plutôt à un cheval, oui, à avoir. Et d'ailleurs, nous montrons aussi, là derrière moi, en haut, une photo où on voit la même voiture d'Alaise, mais tiré par des chevaux. Donc là, ça correspond à la tente qu'on a en général. Et ici, la petite histoire qui explique cela, donc ce n'est pas un gag du maquettiste hein, qui voulait se foutre un peu de la gueule des visiteurs, mais c'est un objet qui a été fabriqué en 1916, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale, en pleine occupation de la Belgique et aussi de Bruxelles, bien sûr, par l'armée allemande. Et l'armée allemande, elle réquisitionne. Donc elle prend aux Belges, aux particuliers et aux entreprises, entre autres choses, les chevaux, pour les besoins de l'armée allemande, voyez-vous. Et donc, les entreprises qui continuent à fonctionner comme elles peuvent, très difficilement, mais enfin, Delhaize continue à produire et à devoir transporter ce qu'elle produit, ce qu'elle diffuse, eh bien, elle va se rabattre sur d'autres animaux de trait. Donc ici, voilà, un bœuf. Donc, c'est aussi un témoignage d'un contexte de guerre hein, qui explique la présence de cet animal devant cette voiture.
Et vous disiez donc que cette pièce attise beaucoup la curiosité.
Mais oui, parce que voilà, ça ne se voit pas souvent. Enfin, je n'ai pas encore vu dans un musée, disons, d'histoire locale, d'histoire économique, etc. Comme c'est le cas par exemple à la Fonderie, qui est par ailleurs un très beau musée molenbeekois. Ce genre d'objet, donc voilà, c'est aussi la joie de montrer quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou su montrer ailleurs. Un objet de belle qualité et voilà, d'une valeur documentaire importante.
Et vous, les enfants, jusque-là, quelle pièce vous a un peu surprise ou surpris ou vous a intéressé? On peut faire un tour. Hein.
Pour l'instant, pas grand-chose, vu que...
Il n'y a rien d'impressionnant ici.
Mais non, mais parce qu'en fait...
C'est que des vieux trucs.
Mais non, non. Parce qu'en fait, avec l'école, on était déjà venus et M. Arnaud nous a déjà présenté beaucoup de choses. Enfin, M.
Sven ou Bernard.
Sven, voilà, Sven.
La même chose.
Et, donc, et vous avez un souvenir particulier? Qu'est-ce que vous trouviez drôle ou spécial? Et ça vous fait pas bizarre de voir les anciens Ferrari passer ou les anciennes baignoires toutes petites?
En fait, si, un peu, parce que je me disais comment ils faisaient. Voilà, c'était ça que je me disais. Par exemple, avec les Ferrari passer, comment ils faisaient pour bien repasser sur le vêtement sans avoir aucun pli.
Et moi, c'est les toilettes d'avant. Soit ils faisaient dans la nature, ou soit... Je sais plus comment ça s'appelle, mais...
Il y a des toilettes qui sont exposées?
Non.
Et tu veux me montrer, c'était dans une des vitrines ici? Oui. Je peux te suivre?
Allez, on te suit à la recherche des toilettes. C'est beau, ça.
C'est celle-là.
Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici?
On voit qu'il y avait juste une planche de bois... troué, et là on peut faire pipi et caca.
Est-ce que c'était pour les humains ou plutôt pour le purin?
Pour les humains.
Ah oui. Parce que j'ai l'impression de lire. Qu'est-ce qu'on lit ici?
La luche à purin servait à vider les fosses d'essence jusqu'à la fin du 19e siècle. Les excréments sont utilisés comme engrais avant d'être remplacés par les engrais chimiques. Depuis 1866, un réseau d'égouts est construit en région bruxelloise.
Donc c'était la fosse à purin humain. On confirme?
Eh oui, c'est une louche à purin, tout à fait. Celle qu'on voit juste devant nous, là. Et à côté, c'est ce qu'on appelait... C'est une toilette, en fait, hein. Et c'est une toilette.
Est-ce qu'on pourrait nous...
un four, hein, parce que quelqu'un m'avait dit une fois, quand j'avais fait une visite guidée, tiens monsieur, ça, on dirait que ça ressemble à un four, mais non, pas du tout. Et alors je leur ai dit ce que c'était exactement, réellement, et je leur ai dit, eh bien les enfants, c'est pas vraiment un four, c'est plutôt une toilette qu'on trouvait au fond d'un jardin, au fond d'une cour.
On n'a plus trop envie de mettre sa pizza à chauffer, du coup.
Non, je sais pas.
Moi, ça me donne pas très envie, je sais pas, moi.
Mais moi, j'aurais une question pour les enfants. Ça vous fait quoi de savoir qu'ici, donc ici à Molenbeek, où vous vivez tous, qu'à l'époque d'avant, ça, on vivait comme ça? Ça ne vous fait pas bizarre de dire, avant, là, maintenant, on a tout, on a les métros, on a les bus, les trams, on a toute la technologie, et qu'avant, c'est comme ça qu'on vivait. Ça vous fait quoi de vivre maintenant?
Alors, moi... Je vais dire juste une chose, je suis fière de cette ville. Vous savez pourquoi?
Dites-moi.
Premièrement, parce qu'on est des très bons troqueurs. Voilà, on a bien troqué. On a racheté des choses aux autres. Et deuxièmement, on vit bien, on est bien. Et on a aucune raison de se plaindre. Voilà.
Donc t'es fière d'être Molenbeek, quoi?
Oui, voilà.
C'est très important, ça. écoutez, merci.
Vous écoutez Radio Maritime.
I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss you make my paradise, my paradise complete. rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine, to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental. You'd be loving sentimental me. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. Since you made this night a thing divine, divine, in a sentimental mood, I'm within a world so heavenly. Dreamt that you'd be loving sentimental, sentimental, sentimental me.
Vous écoutez Radio Maritime, on est ensemble jusqu'à midi sur Radio Panique. Et là, on va vous faire écouter l'épisode 6 d'un résultat d'atelier qui s'appelle À l'Ouest Podcast. Ce sont des jeunes de Bécane qui vous parlent.
Ça fait 6 mois que j'ai perdu ma mère. Ma mère, c'est comme mon père et ma mère en fait, parce que j'ai grandi qu'avec elle. Donc je l'ai vécu assez difficilement et encore aujourd'hui, c'est pas évident. Mais on fait avec.
Chut. Arrêtez tout, c'est À l'Ouest Podcast.
Écoutez.
Épisode 6, la mort à Bécane.
Elle était très belle, elle était trop trop belle même d'ailleurs. Elle était grande de taille, elle paraissait jeune comme ça et tout.
La maman du Daïfa, je la connaissais pas personnellement, mais elle était très rayonnante de l'extérieur. Et donc ça se voyait qu'elle était bien avec tout le monde.
Je sais pas comment dire, elle était ouverte d'esprit, elle était respectueuse, elle était trop sympa, enfin tout ça, bref.
C'est une personne qui nous manque à Bécane déjà.
Pour moi, dans ma tête, là, elle a la maison, elle fait, je sais pas, elle fait le linge ou elle fait un truc, j'arrive toujours pas à réaliser qu'elle est vraiment morte. Et puis quand je vois vraiment Oudeifa qui fait des petits raps, des petits trucs genre en mode qui parle de sa mère et tout, là je me suis dit ouais, c'est pas des lol, que c'est vraiment vrai et que bah elle est vraiment partie quoi. Alors, moi, je voudrais mourir avant mes parents, avant mes 3 petites sœurs et mon grand frère. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie... En fait, que eux... Je sais que c'est égoïste hein, de ma part, mais voilà. J'ai pas envie que eux, quand ils vont mourir, par exemple, eh ben, je vais souffrir. Parce que je sais que je vais souffrir. Je sais que c'est mort, je pourrais pas, genre... je serais en déprime. Vous voyez les gens qui disent, oui, tu meurs, enfin, ta maman, elle meurt, après, ça va aller, tu vas l'accepter. Ben, moi, je sais que c'est mort. Pourtant, dans notre religion, il faut accepter que la personne, elle meurt parce qu'après, elle va chez Dieu. Et c'est sous les mains... Enfin, on est toujours sur la main de Dieu, mais genre, c'est lui qui va un peu s'occuper, si vous voulez, de la personne. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Genre, je vois... Je ne peux pas. Voilà.
Après la mort, je pense qu'on ira dans notre tombe.
enfin, on sera dans notre tombe déjà. Et ben, notre âme, elle ira soit au paradis, soit à l'enfer.
Ben, je ne peux pas décrire le paradis. Enfin, c'est quelque chose de parfait. Ben, c'est quelque chose que, sur Terre, on ne pourra jamais imaginer. Même les plus grandes stars ne peuvent même pas voir ce que c'est. Le paradis, c'est un truc inimaginable.
Et l'enfer, je dirais à la purge.
Je sais pas. C'est pas savoir ce qui se passe après la mort, de toute façon. C'est pas savoir.
Peut-être demain, c'est pas, peut-être on va mourir. Autant profiter, peut-être aujourd'hui, peut-être demain je meurs. Donc je profite maintenant. Et après, tu vois, je serai mort. Ce serait pas moi de décider, tu vois.
Tu pourrais me dire comment t'as appris le décès de ta maman?
Ben, j'étais là en fait, donc ma mère, il faut savoir qu'elle était malade depuis 2015, on va dire. Moi, j'ai su qu'elle était malade depuis 2018. Et elle avait un cancer des poumons, après il s'est généralisé. Mais le jour de sa mort, j'étais à la maison, on m'a appelé à 5h du matin pour me dire de venir vite à l'hôpital. Donc j'ai été directement à l'hôpital. Puis ma mère, elle était là, mais elle n'était pas encore morte, elle était sous morphine. Ça veut dire que je savais qu'elle allait mourir, mais je ne savais pas encore à quelle heure elle allait mourir. Donc j'ai attendu, elle est morte vers 5h, je la tenais la main, je la tenais dans mes bras, et puis je mettais ma main sur sa poitrine, et j'attendais son cœur battre de moins en moins vite, jusqu'à ce que le cœur il s'arrête. Puis après j'ai appelé le médecin pour vérifier si elle était bien partie, puis il est venu, il a fait les tests, il a vérifié, elle était partie quoi, voilà.
L'ange de la mort frappe à la porte et c'est maman qui répond. Je pose des questions sur la mort tout en sachant les réponses. Je vis avec des blessures, je pleure avec mes blessures. Voir partir sa mère, c'est une épreuve si dure. En ce moment, je m'isole, même entouré, je me sens seul. Depuis que j'ai vu ta mort, j'ai la phobie des cercueils.
Est-ce que t'as directement réalisé qu'elle était morte ou alors d'abord t'as dû beaucoup réfléchir?
J'ai pas directement réalisé parce que quand un proche il meurt, d'abord on est en famille, tu vois. En fait, nous les Congolais, si tu veux, quand quelqu'un meurt, pendant une semaine ou deux, on est tous ensemble pendant très 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 longtemps. Ce qui fait que tu réalises pas vraiment quoi. T'es là, tu pleures, mais en même temps tu rigoles, t'es joyeux. Mais quand c'est fini tout ça et que tout le monde rentre chez soi et que les mois ils passent, c'est là que tu réalises.
Tu m'as porté 9 mois, je t'ai fait chier 25 ans. Comme des frères, c'est à moi, moi je te collais tout le temps. Tu m'as eu à 19 piges, adolescence enterrée. En amour, t'avais le rétige, papa t'a pas rassuré. T'as joué le rôle de père, t'étais une maman schizo. Moi, j'ai perdu mes repères quand je t'ai vu à l'hosto. Je voulais garnir ta foi d'islam, mais ton cœur était chrétien. Ton amour avait cette flamme que mon géniteur a éteint. T'étais fier de ton fils, pourtant j'ai pas eu le diplôme. Toi et moi, on est complices, tu seras toujours mon binôme.
Je pense pas au fait de me dire ma mère elle va aller là ou là en fait. Moi je vais mourir un jour, je pense juste à ça en fait. Je pense pas à ma mère où elle est exactement actuellement ou si elle va en enfer au paradis. Sincèrement, je pense pas à ça. Je sais que tôt ou tard je vais la revoir, je suis à 1000% de ça. Après, si c'est des bonnes circonstances ou mauvaises circonstances, ça je sais pas. Ça Dieu seul sait, mais le fait que je sais qu'un jour je vais la revoir, ben entre guillemets ça me rassure un petit peu quoi. J'attends tout simplement. Mais c'est vrai que le fait qu'on a deux croyances différentes, le sujet de la mort par rapport à ça, c'est pas évident. Franchement, pas du tout évident.
Ouvrez vos oreilles, c'est À l'Ouest Podcast.
Quand on est mort, on nous prend soit chez une personne qui doit nous laver, donc soit un membre de notre famille, soit une personne qui fait ça, donc qui lave les personnes musulmanes. Ensuite, on nous couvre dans un drap blanc, en coton, que tous les musulmans doivent passer par là. Ils doivent le mettre. Et on nous prend à la mosquée. On prie tous sur la personne. Et que les hommes qui peuvent prendre le défunt vers la tombe, les femmes, elles ne peuvent pas. Donc, plus il y a de gens, mieux c'est. Donc, mieux la personne, elle a, on va dire, des bonnes actions. Et donc, voilà, ils doivent le mettre dans la tombe, lire le Coran, etc., pour que la personne, on va dire, elle soit en paix. Normalement, quand on nous dépose dans notre tombe et qu'on remet le sable sur nous, ben normalement, on entend les personnes parler, les personnes marcher, on entend tout. Dieu prend notre âme et l'élève jusqu'au ciel, jusqu'au premier ciel. Il la lâche et elle tombe jusqu'au sol. Et ensuite, quand on revient, dans les deux cas, soit même si elle est bonne ou mauvaise, ben elle revient dans la tombe. Et de là, il y a deux anges de la mort qui vont nous poser, normalement, je crois, c'est trois questions. Donc c'est qui est ton dieu ?
J'aimerais bien être enterrée à côté de ma mère, à Nador vers une mosquée, près d'une mosquée plutôt.
Quel est ton livre ?
Moi je voudrais être enterrée près de mes parents et de ma famille.
Et quel est ton prophète ?
J'espère que ma tombe sera décorée avec des fleurs et j'espère que les personnes viendront me voir.
Peu importe, dans tous les cas je serai morte, du moment que c'est dans un cimetière.
Je ne sais pas trop où je vais être enterrée.
Juste où on me respecte, enfin on respecte ma tombe, c'est tout ce que je demande. Le reste, je m'en fous. À côté de qui, je m'en fous, parce que dans tous les cas, au paradis, on va pas se reconnaître. Et j'espère que je serai au paradis et pas en enfer, ça aussi.
Moi, j'aimerais être enterré où sincèrement, je sais pas. Mais pas à l'intérieur d'un cimetière, ici, on va dire chrétien, on va dire ou neutre. Parce que moi, je préfère quand même être enterré dans un cimetière musulman ou bien... je sais pas, à la Mecque ou un truc comme ça, peut-être, on verra, qui sait. Peut-être que je serai plus ici, donc je sais pas où, où je serai dans 10 ans ou dans quelques années ou le jour où je vais mourir, quoi. En tout cas, mais j'espère pas être enterré en Belgique, en tout cas. Elle a été enterrée en Belgique parce que voilà, ça a été un choix familial. Moi, j'ai pas eu trop mon mot à dire. Et puis voilà, quoi, c'est, pour elle, c'est peut-être différent, mais moi, pour moi, j'aimerais quand même être enterré dans une terre, entre guillemets, dite sainte, quoi. Donc, à la Mecque, ce serait bien, quoi. Si je suis là-bas ou si maintenant je vis dans un autre pays, ben. Le pays où j'y vivrai à ce moment-là, quoi. Après, si je meurs demain, ben, ils vont m'enterrer ici, tout simplement, quoi. Mais j'ai pas vraiment de... aller de but et me dire, ouais, je vais te enterrer là ou là. J'ai pas vraiment ça en tête, quoi. C'est tout.
À l'Ouest Podcast.
Vous écoutez Radio Maritime, on met un peu de la bonne humeur. Hein. Je suis toujours sans les animateurs de Radio Maritime, puisque nous sommes toujours en confinement. Mais je suis au studio et nous sommes ensemble sur Radio Panique jusque midi. Mais j'ai une invitée qui s'appelle Isabelle et qui va se présenter si j'arrive à lui allumer son micro. Bonjour.
Bonjour, le micro est allumé ?
Ouais, on t'entend bien.
Bonjour à tous.
Bonjour Isabelle.
Et merci Thibaut de m'accueillir.
Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille parce que j'ai reçu un mail de ta part parce que tu voudrais lancer une radio de quartier. Alors ça tombe bien parce que Radio Maritime est une radio de quartier. C'est bien ça, ton projet ?
Oui, exactement. C'est un vieux rêve. C'est de lancer une radio dans le quartier qui est le mien, qui est le quartier de la Gare du Nord à Bruxelles, qui est un quartier très, très, très particulier parce que c'est un vieux quartier qui a une histoire, qui a connu un héliport, qui a une avenue de l'héliport. Donc, il y avait des hélicoptères qui décollaient de ce quartier. Il est très proche du quartier maritime, évidemment, de la gare de Tour et Taxi. Historiquement, il est très riche. Puis il y a eu différentes strates historiques puisque il a été un peu balafré par des gros projets immobiliers et des grosses structures, des grosses boîtes qui sont venues des boîtes qui sous forme de gros buildings à miroir. Donc les habitants s'y retrouvent pas toujours tous les matins. Il y a tous ces gens qui sont vomis par cette gare du Nord, qui courent dans des... Enfin, pas pour le moment, c'est le confinement, mais qui...
C'est plus calme.
Qui c'est plus calme. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce que les oiseaux chantent. Il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a des lapins aussi dans ce quartier, parce qu'il y a une ferme. Il y a la ferme du parc Maximilien.
Mais oui, le ferme du parc, ouais.
Voilà. Il y a une histoire de quartier très, très riche. Il y a des anciens habitants qui ont vu ce quartier se transformer très, très fort. Il y a des tout nouveaux habitants qui profitent des nouvelles infrastructures. Il y a des habitants qui s'en foutent un petit peu du quartier où ils habitent et puis qui courent dans un autre quartier pour y travailler ou pour même aller à l'école. Et puis il y a ceux qui y restent envers et contre tout, il y a ceux qui veulent le fuir, il y a ceux qui veulent y rester. Donc il y a plein de choses à dire sur ce quartier que moi j'avais envie de partager avec les gens qui ne l'habitent pas et qui parfois le voient d'une façon bizarre. Parce que moi je l'habite et très très régulièrement on me dit ah là là, t'habites là, et puis ça fait des années que j'habite là. Et ça fait des années que j'en remarque la richesse, que j'en remarque le fait qu'il dit beaucoup de choses du monde dans lequel on vit. Et j'ai envie de tendre le micro à ceux qui l'habitent, de tendre l'oreille à ceux qui l'habitent. Mes voisins me disent souvent « Alors, ton projet de radio, il en est où ?» Je dis oh, « ça stagne un petit peu. »
Il faut se lancer.
Et il faut se lancer, voilà. Donc là, on me donne le micro, je lance l'appel. Donc oui, je voudrais beaucoup. C'est un rêve que j'essaye patiemment de mettre en place.
Mais ça fait combien de temps que tu vis là ?
Alors, ça fait une petite dizaine d'années.
D'accord.
Petite.
Donc tu as eu le temps de lier des contacts avec plusieurs voisins.
Oui, je commence. Mais c'est vraiment depuis, c'est ça qui est étrange, c'est que j'ai bougé dans la même rue. Et quand on est dans un endroit ou dans un autre, on n'a pas la même vision des choses. J'ai pris quelques étages aussi. Donc oui, évidemment, je commence à connaître les voisins, quelques structures associatives, les gens de la ferme, qui est vraiment un endroit privilégié dont on a le bonheur de profiter. Et oui, j'ai commencé à connaître mes voisins, à leur parler, à connaître leur richesse, leurs différences, à aller au-delà des clichés du quartier de la gare, du quartier un peu craignos. Mais c'est aussi pour parler des côtés un peu difficiles, parce qu'il faut pas se le cacher.
Oui,
il y a des côtés compliqués. Il y a de la prostitution, il y a du trafic, il y a du vol. Mais moi, je pars du principe que c'est en parlant des choses et en parlant avec les gens et avec tous les gens, que potentiellement, c'est peut-être un rêve complètement pieux, mais on peut mettre du lien et que ce lien, il peut être fait par la radio, par le son, par la musique. Je pense vraiment que ce projet de radio de quartier peut être un projet de cohésion et de cohérence.
Mais oui, c'est nous, ce qui nous a aidé quand on a lancé Radio Maritime, c'est le tissu associatif du quartier qui a pu nous mettre en lien avec beaucoup de monde. Est-ce que tu Tu penses qu'il y a un tissu associatif assez important dans ce quartier-là ?
Il y a un tissu associatif, mais mon impression, c'est que ces différents tissus associatifs ne sont pas nécessairement regroupés. Et donc, d'où ce statut, je vais dire, c'est très, très présomptueux de dire ça, mais de lien par la radio, peut-être. Après, c'est une vision que j'ai, peut-être qu'elle est fausse. Peut-être que ces associations sont plus connectées que ce que je ne pense. Mais moi, de mon vécu, j'ai l'impression qu'elles sont pas toujours tout à fait connectées et que ce serait bien. Et puis il y a des nouveaux projets qui viennent dans ce quartier. On pense à Canal, ce centre culturel, qui va aussi complètement modifier la dynamique du quartier. Et donc c'est aussi prendre en compte ces différents nouveaux projets sans oublier ceux qu'il y avait déjà avant et que ces anciens projets associatifs puissent trouver leur place dans cette mouvance en fait.
Alors qu'est-ce qui te freine aujourd'hui pour lancer cette radio?
C'est mes deux mains gauches.
Allons.
Et mon cerveau pas très technique. Non, c'est vrai. Très concrètement, des idées, une structure journalistique, l'envie d'aller vers les gens, de rencontrer les gens, de donner la parole aux gens, de donner parfois le micro aux gens, ça je l'ai. Mais j'ai un petit... Je pense que je suis un peu contre technique et donc je pense plus de peur que de mal à faire les choses, mais il me faudra un petit kick, une petite aide technique au démarrage de ce projet, donc très 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 pratiquement la gestion de la table de son, la table de mixage, l'apprentissage du montage. Une petite aide serait la bienvenue. Toute seule, on va peut-être plus vite, mais en tout cas, on ne va pas plus loin.
c'est sûr. Mais écoute, nous, à Radio Maritime, on est prêts de toute façon à t'aider dans ce projet, dans ces envies. Comment on peut t'aider?
Ah, eh bien, en m'adjoignant un binôme technique. Ah, mon Dieu, quel rêve. Ce serait merveilleux.
On pourra, c'est envisageable. Maintenant, il faut voir ce qu'on peut faire avec le déconfinement, parce que pour l'instant, par exemple, dans ce studio-ci, on ne peut pas être plus de deux. Donc, c'est compliqué pour faire la vraie radio de quartier en groupe. Donc, il faut voir aussi dans quel espace ça peut se faire. Mais en tout cas, le projet mériterait qu'on s'y attarde un petit peu avec Radio Maritime. D'autant plus que aujourd'hui, tu es l'heureuse invitée de la 200e émission.
Et 2, c'est mon chiffre bonheur.
Ah, tu vois. Donc, ouais, ça fait un moment que nous, on tient le coup. On a dû se réinventer à plein de moments. On a dû créer un landau radio pour pouvoir sortir de ce quartier-ci parce qu'on avait fait un peu le tour. Voilà, on a dû retrouver des gens pour venir réanimer l'émission parce qu'il y a des gens qui se fatiguent aussi. Mais voilà, donc c'est en tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de succès dans cette aventure-là et on est prêt à t'accompagner.
Ah mais génial.
Tu me disais que le point central de cette émission pourrait être le Barlock, c'est ça?
C'est l'ex-Barlock, en fait. C'est Allée du Caille qui est un lieu d'occupation temporaire au bord du canal, qui est facilement visible quand on se balade au bord du canal. C'est un endroit où il y a plein de graphes et
des tags, des meubles en palettes,
voilà, des grands jardins,
des gens assis qui ne font rien. On pense qu'ils ne font rien, mais en fait non, ils font des choses.
Exactement. Et donc il y a un bâtiment qui était adjacent à Alex Barlock, qui appartient maintenant, enfin qui est dans la gestion d'Allée du Caille, et qui est un endroit où moi j'ai repéré un petit donc qui est maintenant à investir, et il y a un petit cagibi comme ça dans un coin. Moi je vois bien un petit studio radio là, qui sera un endroit à la fois d'expérimentation de cette radio et qui serait aussi un lieu d'observation de ce quartier qui est en mutation profonde. Donc c'est la double casquette aussi de ce projet, c'est vraiment donner voix au quartier et puis observer ce quartier, comment il est en train de muer, de transmuter, d'évoluer et d'accompagner ça aussi. Et je pense que c'est ce petit coin-là, Allée du Caille, qui est un lieu aussi qui voit se mélanger, qui a vu sur Tour et Taxi, sur les bureaux de Tour et Taxi, sur les
beaux logements de l'autre côté du canal.
Les beaux logements de l'autre côté du canal. Oui, mais donc il y a tout ça. Et donc que ce lieu pourrait être vraiment un lieu de transition, d'observation et surtout de mise en commun.
Parfait. Excellent. Bon, on te souhaite beaucoup de courage et compte sur nous. Nous, tant qu'on peut aider, on le fera. Alors, on va se diriger maintenant vers le quartier des Marolles.
Et merci.
Avec plaisir. De toute façon, tu peux rester avec nous.
Ah hein. Oh, oui, je reste. Oh, surtout si on va dans les Marolles.
Ah, mais oui, là, on va dans les Marolles parce qu'on va écouter les jeunes. On va écouter les jeunes. En ce moment, si vous vous plongez dans le site internet parlonsjeunes.be ou sur la page Facebook Parlons Jeunes, plein de jeunes vous livrent leur témoignage de cette période un peu bizarre qu'ils sont en train de vivre. Et nous avons eu envie, nous, au Xara, puisque nous participons à ce projet Parlons Jeunes, de tendre le micro aux jeunes des Marolles. Puisque vous vous doutez bien que dans les Marolles, eh bien, il y a eu des bavures policières. Enfin, on pense. On ne sait pas. Bon, on écoute les jeunes.
Je sortais uniquement quand il fallait faire des courses. Ou alors pour aller chercher des colis que j'avais oublié de récupérer en bas de chez moi. Je sais pas, honnêtement, je trouve qu'il n'y avait rien à faire. Peut-être capter des gens, sortir avec quelques potes, mais à part ça, j'avais pas beaucoup de potes qui voulaient sortir parce qu'ils avaient peur de mourir bêtement. Ça se comprend. Je l'ai plutôt bien vécu en soi. J'ai passé mes journées à me réveiller à 14h. Ensuite, je passais soit mes journées sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, à traîner sur les réseaux sociaux. Et j'avais des devoirs à faire, dont j'ai fait un quart parce que s'il n'était pas obligatoire, encore heureux. En soi, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire.
Vous écoutez Parlons Jeunes, parlons déconfinement.
Je m'appelle Mohamed Soiré, j'ai 18 ans, je suis étudiant en informatique. Je suis confiné avec toute ma famille et dans un appartement et nous n'avons seulement qu'une terrasse et un petit jardin en commun avec des voisins. Mais il est trop petit et c'est problématique. Pour moi, le déconfinement, c'est une bonne chose parce que ça va nous permettre d'un peu plus sortir. Mais moi, je me suis dit que j'allais pas vraiment sortir. Il n'y a rien de spécial à faire à part le shopping. C'est mieux de rester encore un petit peu à la maison, mais de peut-être de temps en temps sortir s'il faut. Enfin, si c'est obligatoire.
Je m'appelle Sabri et j'ai 10 ans. Bah, je suis confinée avec ma cousine, ma grand-mère et tout ça. Avec la copine à ma grand-mère qui a deux chiens et que je les sors souvent avec elle. Et tout ça m'amuse et je les aime bien et tout ça. Il s'appelle Luna et Tyson. Et voilà. Je vis un peu bien. De toute façon, le confinement, maintenant, c'est le déconfinement. Et voilà. Moi, maintenant, je peux ressortir avec mes potes. Et voilà. Je vais jouer ici, comme je viens de sortir, il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est bon.
Des fois, je sors. C'est moi qui fais les courses pour la maison et tout. Mais maintenant, ça va. Même mes parents, encore aujourd'hui, ils sont pas sortis. T'as compris, avec ce corona et tout, c'est difficile. Ouais, c'est Jawad. J'ai 22 ans. Moi, mes parents, on est ici, c'est à la maison. Dans une maison, on était presque 2 mois, personne qui est sorti. Ça va, moi, je viens ici des fois. Je viens ici ce soir de faire un tour pour fumer une cigarette. On voit des flics. Ils arrivent. Ça, c'est les flics qui te dérangent pour le moment. Même hier soir à 21h30, on a mangé. Ils sont venus ici, ils commencent à tourner. Tout le monde est court, tout le monde. Laisse-moi pas fumer une cigarette tranquille pour entrer à la maison. Il y a des gens qui n'ont jamais volé de leur vie. Comme moi, par exemple, jamais volé, jamais fait un truc de mal. Et viens, tu fais de mal. Non, mes parents ne font pas de mal. C'est une policière qui va te faire mal. Ils ont frappé des amis, c'est pendant le confinement. Ils viennent 15 voitures, je sais pas combien, ils frappent. Hein. Ah oui, mais si tu cours et t'attrapes, tu vas ramasser aussi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais. Moi, ça parle un peu. Moi, c'est connu très bien, là, vous disiez.
Je parle de quoi?
C'est mon voisin.
Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais ils viennent pas parler. C'est directement un coup de matraque, en pleine gueule, devant la maman, devant les parents, devant les petits frères. Et les petits frères, quand ils voient ça, c'est choquant. Ils ont jamais vu ça à la télé, ils voient ça que c'est dans la rue, c'est plus dangereux. Ils ne nous demandent même plus notre carte d'identité, ils ne nous reconnaissent même plus. Ils nous voient avec, comment on dit ça? Du mauvais regard, quoi. Je m'appelle Mustapha, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis confiné avec mes parents et mon petit frère, dans un appartement.
Du coup, en gros, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait une personne qui était descendue en bas de chez lui pour fumer une cigarette. Il était juste en bas de chez lui, en soi, c'est rien de mal. Mais on va dire que les policiers n'ont pas vraiment aimé, on ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé à poser plein de questions. Et apparemment, il n'avait pas sa carte d'identité. C'est ça qui a un peu démarré le problème. De ce qu'on a pu voir, les policiers l'ont traîné par terre, lui arraché ses locks, en cherchant que des locks. C'est vraiment, ça tire vraiment à la racine de nos cheveux. C'est-à-dire que pour les arracher, il faut vraiment y aller. Vraiment voir la haine, vraiment. Je trouve que, honnêtement, ils sont allés vraiment beaucoup trop fort. Ils auraient pu juste lui dire d'en monter, prendre sa carte après. Après, il n'y aurait rien eu, mais après, je trouve que voilà, la violence, c'est la violence inutile et gratuite, selon moi.
Là, pour le moment, j'aime pas les policiers et tout. Non, mais pas, je les regarde un mauvais regard. Ouais, on n'a jamais rien fait de mal. Hier soir, c'était à quelle heure? C'était 1h du matin, ils étaient là. Regardez, il y avait que des grands, ils ont leur famille, tout, ils ne volent pas, ils viennent vers nous.
Hier, y avait les grands ici, y avait la police qui courait derrière eux et tout ça. Et on a entendu des cris. Et voilà. C'est juste, j'ai entendu des cris, je suis partie voir à la fenêtre. Et j'ai vu la police, une femme et un garçon, et la cache à boule qui était en train de courir derrière des grands. Voilà. C'est ça que j'ai vu par la fenêtre. J'étais chez ma grand-mère ici en haut. Et eux, c'était là.
Ils ont sorti leur véhicule ici, ils sont venus à une dizaine pour courir après nous. Nous, on venait de sortir, ils savent qu'on est en plein jeûne de Ramadan, et on doit fumer une cigarette, une ou deux max, mais ils viennent tout le temps nous parasiter, quoi. Tout le temps. Moi, j'aime pas ça. J'en ai 28 ans, je sais ce que je fais, je suis mature, je sais ce que je fais, quoi.
On va pas se mentir, on sait qu'il y a des racistes dans la police, c'est pas nouveau, il y a même eu un témoignage d'un ancien policier qui avait un peu raconté ce qui se passait un peu. Il y avait des policiers, ils avaient un certain comportement vis-à-vis de certaines communautés. Par exemple, un blanc qui devait aller dans un commissariat, il allait avoir un autre traitement de faveur qu'un noir ou un arabe, qui allait peut-être être traité un peu plus brutalement, comme si ce n'était juste qu'un vulgaire animal. Alors qu'en soi, on est tous égaux. Peut-être que c'est vrai que certains ont fait des crimes, mais on va dire que personne n'est parfait. Je trouve que les policiers devraient être un peu plus laxistes. C'est normal qu'après, il y ait des jeunes qui sont énervés contre ça, parce qu'après, il y a encore l'histoire du jeune Adil qui est mort percuté par une voiture. C'est vrai que c'est un peu flou, parce qu'on n'a pas d'image, on peut penser à peu près tout et n'importe quoi. Honnêtement, je trouve que cette histoire est un peu louche. Je veux dire, ça n'a pas de sens qu'un jeune fonce sur une voiture. On va dire, à quel moment tu veux te dire que tu vas foncer sur une voiture, surtout qu'il n'a pas son casque. On peut comprendre qu'il y a des jeunes qui décident d'aller dans les rues, mais après, je trouve que ce qui est un peu débile de leur part, c'est de vouloir tout casser, parce qu'après... Ça a encore poussé des gens à dire « Ah, c'est toujours les mêmes qui cassent des trucs, on va dire. » Ça a un peu augmenté les stéréotypes que les gens ont, par exemple, sur les jeunes. Ils vont dire « Ouais, les jeunes sont violents, les jeunes sont comme ça, sont comme ci. » Du coup, voilà, je trouve que le mieux à faire, c'est que quand il y a des choses comme ça, il vaut mieux juste manifester pacifiquement que plutôt aller dans la violence facile. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent et on se fera sûrement mieux écouter.
Bavure policière, j'espère que ça va s'arrêter, mais si ça ne s'arrête pas, chaque quartier vont commencer à se réveiller, ça va pas être juste une émeute, ça va être la guerre, la troisième guerre mondiale, je vous assure. Hein. Parce que regardez, la première fois, ça va, ils sont venus cool, je veux dire la vérité, dès le premier jour du confinement, ils sont venus chez nous, c'est la voiture, la BA quoi, la Volvo, si vous la connaissez. Ben, elle est passée devant chez nous, elle nous a dit, bon, on vous fait rien parce que on a fait le tour 4 fois ou 5 fois, on vous a vu à 10. S'il vous plaît, mettez-vous deux par deux, ça va. Mais une dizaine comme ça en groupe, non, moi je voudrais pas. Et c'est le policier qui a parlé gentiment. Mais par après, je sais pas ce qu'il y a eu dans la tête des policiers, mais c'est parti un peu très loin dans leurs limites, quoi. Ils viennent même pas discuter directement, des tartes en pleine figure, le visage, il touche le mur, c'est honteux, quoi. Ils font à tout le monde comme ça.
Ils parlent de manière comme ils sont racistes, si tu n'as pas les musulmans et tout. Il y a un policier, j'attendais là des bons ramadans à tous les Maroliens. Ça veut dire quoi ça, les Maroliens? C'est juste le Maroc qui est musulman. Moi, j'aime pas la manière qu'ils parlent. Ils arrivent énervés, ils sont tout rouges, je sais pas. C'est normal, on va courir. Si on court une attrape, là, c'est encore pire. Cette fois-ci, je les aime pas. C'est fini.
Comme ils ont touché un petit frère d'Anderlecht, là, le petit Adil, ça nous a touché, quoi. On veut faire aussi des représailles, quoi. Il y en a eu un en France, il y a eu ici. C'est trop, quoi.
Il faut songer la police.
Ouais, c'est Coluche qui dit ça, en fait. Ouais. C'est Coluche qui dit ça, en fait. Il dit, j'ai attendu plusieurs fois à changer la... Ouais, la mentalité des Français, mais avant tout, il faut changer la police.
Pour le moment, je connais 3 potes qui sont morts à cause de la police. Il y a un à la gare... comment ça s'appelle ? À la gare centrale, là, bien long écrasé. Il y a un à Molenbeek. Et là, le dernier, c'est Adel Anderlecht, qui n'a pas un mois, 19 ans. Je les connaissais très très bien, c'était gentil. Ils font pas de mal, rien. Mais...
Les policiers qui font ça, pourquoi ils sont pas condamnés ? Nous, on est tout le temps condamnés pour un bête truc. Et pourquoi pas ? J'espère qu'ils vont se faire condamner. Et que ça reste comme ça, je vous jure que ça va exploser. Ils disent que la police nous protège. Mais qui nous protège des matraques de la police ?
C'était...
Parlons jeunes.
Parlons jeunes, parlons déconfinement.
Vous écoutez Radio Maritime. Et là, on va être en ligne avec Gaspard, si la technique fonctionne. Gaspard, tu es là ?
Oui, je suis là, bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour Gaspard. Toi, tu travailles donc à l'ARU ASBL.
C'est ça.
Et vous avez publié hier un article sur la densité de population, sur la pression immobilière qu'il peut y avoir en ce moment autour du canal.
Oui.
Quel constat vous faites à l'ARU ASBL, alors, sur ce quartier ?
Eh bien, en fait, c'est un constat qui est partagé et qui est vraiment amer. Le constat que le confinement qu'on a tous traversé n'a fait que renforcer en fait les inégalités de territoire dans la région bruxelloise. Quand on voit que certaines communes comme Ixelles, par exemple, ou Olué, ou même la ville de Bruxelles, redonnent de l'espace public pour les usagers et les usagères, que ce soit les piétons, les cyclistes, ouvrent les parcs. Ici à Molenbeek, on a un constat qui est complètement différent. En fait, on a une surdensité de population qui est extrême. On est un des quartiers les plus densément peuplés de toute l'Europe. Et ça nuit vraiment à la qualité de vie des habitants. Et en fait, cet appel-là, c'est un travail collectif qu'on a mené avec 10 autres associations. Un travail de fond, une espèce de main tendue pour demander un peu plus d'écoute de la part des autorités publiques sur les besoins qui sont urgents et qui ne sont que renforcés par la crise qu'on traverse.
Alors justement, quelles sont les propositions finalement concrètes que vous faites dans cette publication ?
Alors nous, on a notre proposition centrale, c'est de remettre les citoyennes et les citoyens au cœur des processus de décision. On voit aujourd'hui que les énormes projets immobiliers qui se sont développés sur toute la zone du canal, donc ça va partir de Tour et Taxi jusqu'à même Anderlecht et Key West, des énormes projets qui sont négociés entre les autorités et les promoteurs immobiliers, qui arrivent en enquête publique, et en fait les projets sont déjà ficelés. Donc les personnes qui s'intéressent à ces projets-là et donnent de leur temps, de leur énergie pour réagir, pour construire des réactions collectives, en fait, c'est dépassé. La participation citoyenne, elle est complètement caduque. Elle ne sert pas à grand-chose dans le cadre actuel. Et nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir discuter en amont de tout ça, entre les citoyennes, les citoyens, les associations locales et les autorités publiques, pour dire, OK, voilà nos besoins. On a besoin de plus d'espaces verts pour pouvoir respecter les mesures de distanciation physique, on a besoin de plus d'équipements, on a besoin de plus de choses qui font la ville en tant que rassemblement de personnes, et il faut faire passer ça avant, bien avant, les intérêts spéculatifs de la finance immobilière qui sont en train de défigurer nos quartiers et de voir pousser des énormes tours un peu partout sur le canal qui répondent pas du tout aux besoins qui sont actuels et qui sont vraiment urgents. Donc nous, c'est ça qu'on demande en fait. On demande de pouvoir discuter, être pris au sérieux par les autorités publiques, puisque les citoyennes et les citoyens ont des choses à dire. C'est elles et eux qui vivent dans ces quartiers au quotidien, qui ont des difficultés parfois, mais aussi un attachement réel. Et donc on demande de pouvoir discuter de manière réelle, voilà, avec les autorités publiques. On demande aussi beaucoup plus d'espaces verts, parce que on a ici dans le quartier un le taux le plus bas en espace vert de toute la région bruxelloise. Bruxelles est souvent considérée comme étant une capitale verte. C'est pas le cas du tout à Molenbeek.
On a elle n'est pas verte pour tout le monde.
Oui, exactement. Exactement. C'est et donc, sûr. On demande que tous ces nouveaux projets mastodontes puissent aussi servir à l'intérêt général et pas seulement à la rentabilité, quoi.
Parfait. Est-ce qu'il y a eu déjà des réactions par rapport à votre publication ce matin ou...
Alors écoute, oui, on a déjà des réactions, ce qui est plutôt encourageant. Le cabinet de la bourgmestre nous a écrit pour nous rencontrer la semaine prochaine. Donc voilà, c'est déjà une bonne première étape qu'on va saisir avec entrain et motivation. Parce que c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Donc on va initier les discussions et espérant que voilà, on puisse être entendu cette fois-ci, quoi.
Eh bien voilà. Quelque chose d'autre à rajouter, Gaspard ?
Bah écoute, merci pour l'invitation.
Bah avec plaisir, et n'hésitez vraiment pas à venir nous reparler de l'évolution du dossier dans Radio Maritime.
Super, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup, Gaspard, bon travail à vous, et bon courage, hein, maintenant que c'est le déconfinement, ça va reprendre à fond,
oui.
Non ?
Tout à fait, on reprend, toujours plus motivé. Ouais.
Super, merci beaucoup, Gaspard, à bientôt.
Bonne journée, salut.
Ciao. Pendant que Patrick entre dans le studio pour terminer, conclure, mettre un point final à cette émission, Monsieur Patrick, l'école de devoir a donc repris. Ça y est.
Oui.
C'est merveilleux.
Tranquillement, hein.
Vous m'avez attendez. Manqué, Monsieur Patrick.
Oh oui, attendez, je m'installe.
Ah ouais, il fait tout tomber. Il arrive et il pète tout. Il nous reste 2 minutes d'émission, Monsieur Patrick. C'est vraiment
Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Faisons les choses dans l'ordre. Ce matériel est vraiment... Il va falloir refaire
ça. Il a rouillé. Qu'est-ce que vous
voulez ? Alors, oui, l'école de devoir a recommencé. Ce n'est pas vraiment école de devoir. Ce sont les enfants qui ont reçu du travail scolaire de l'école, qui ont un peu de mal à le faire. Et donc, voilà, on leur donne un coup de pouce. Pour l'instant, ils sont 8, 4 le matin et 4 l'après-midi.
Et comment vous le vivez, vous ? Vous êtes heureux ?
Alors... Croyant que j'allais devoir faire une chronique, je me suis dit, comment est-ce que je vais présenter la chose ? Alors la chose, c'est simple. Il y a un an exactement, j'ai lu 2 livres d'un Italien, c'est un neurobiologiste, et ça s'appelait « L'intelligence des plantes et la révolution des plantes ». Et il explique dans un de ses passages, c'est passionnant comme livre, qu'il y a des plantes qui vivent dans les déserts, genre du Kalahari, etc., qui voient 3 grammes d'eau en 6 mois,
ouais.
Et que dès qu'il y a quelque chose qui peut passer, qui ressemble à l'humidité, elle l'attrape. Eh bien, moi, j'ai vécu mes 2 mois comme étant une plante sans eau, et depuis lundi, eh bien, j'attrape de l'humidité par l'intermédiaire des enfants, et donc, je revis, voilà.
Bravo, Monsieur Patrick. Merci pour tout ce que vous faites.
Je vous en prie.
Mais maintenant que ça reprend, c'est fini les vacances. Moi, je veux une chronique par semaine.
Ça va. C'est de l'abus. Hein.
Je sais. On a longuement parlé hors micro de votre salaire pour cette chronique. Et sachez que vous ne serez pas augmenté. Merci Isabelle.
Mais de rien. Et merci pour l'accueil.
Et restez à l'écoute parce qu'il y aura bientôt Radio OK.
Oui, exactement.
Qui va arriver soit en podcast, soit sur les ondes. Une nouvelle radio de quartier. C'est bien, il faut faire parler les gens des quartiers, Monsieur Patrick.
Mais oui.
Merci, c'était Radio Maritime, on reprend en studio.
À bientôt.
À bientôt, à la semaine prochaine, ciao.
Au revoir.
Participez à Radio Maritime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ce que je dise, moi ? Hein ?